mars. L'autre bonne nouvelle, c'est que c'est Simon Rubin qui présente le premier journal de la tranche, celui de 7h.
Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler.
Il avait annoncé le prolongement du confinement, l'air de rien avant-hier. Cette fois, Édouard Philippe s'est voulu solennel. La France entre dans le dur de la crise. Enjeux politiques se mêlent aux défis de sécurité sanitaire. On va faire le point sur la situation.
Le transfert des patients hors des régions submergées par la maladie continue. On vous emmène ce matin à bord de ces TGV qui vont partir du Grand Est pour rallier la Nouvelle-Aquitaine.
On va aussi prendre des nouvelles du futur. Oui, le futur, ou plutôt la Chine, qui commence à lever les restrictions et confinement. Confinement à Wuhan. Certaines entreprises françaises sont les premières à rouvrir leurs portes. Et puis, ces établissements n'ont pas vraiment fermé les zoos. Pas de visiteurs, certes, mais des animaux dont il faut s'occuper et prendre soin.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le rendez-vous était solennel, une grande conférence de presse hier soir pour Édouard Philippe et Olivier Véran, près de 2 heures de présentation avec une vocation pédagogique évidente. Le gouvernement a amorcé hier une nouvelle phase de communication de crise. Transparence, honnêteté sont des mots qui sont revenus souvent dans la bouche du Premier ministre. Le gouvernement qui dit assumer ses difficultés, Adrien Beck.
Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles, que les 15 jours qui viennent de s'écouler.
L'heure n'est plus seulement à rassurer. Édouard Philippe l'a reconnu d'emblée. Certaines choses nous inquiètent. L'approvisionnement en matériel médical, la situation des personnes âgées par exemple. Prudence aussi d'Olivier Véran après la commande d'1 milliard de masques.
Je n'ai la certitude que les importations sont effectivement sur notre territoire national que lorsque les masques que nous avons commandés sont effectivement sur le territoire national, à la minute où l'avion qui doit amener les masques atterrit sur le tarmac des aéroports français concernés.
Sur les tests de dépistage, là encore, oui, il y en aura plus, mais attention à l'impatience, prévient le ministre de la Santé.
Je citerai l'exemple malheureux de nos voisins espagnols qui, ayant passé une commande pour plusieurs centaines de milliers de tests rapides chinois, ont eu la déconvenue de se rendre compte que ces tests étaient totalement inefficaces.
Un moment de transparence quitte à assumer les difficultés. Le Premier ministre nous dit son entourage renouvellera l'exercice.
Et en ce qui concerne le bilan de la maladie, 319 nouveaux décès en milieu hospitalier hier soir, ce qui porte à 2314 le nombre de morts globales en France, et le nombre de cas de contamination est en hausse de 14%.
Et dans la région Grand Est, qui est la plus durement touchée, les évacuations de malades sous respiration artificielle se poursuivent pour tenter de désengorger les services de réanimation.
En hélicoptère, hier, via l'Allemagne, en avion, avant-hier, ou via des ambulances, mais aussi en train. Et Nicolas Feldman, 2 TGV médicalisés, quitte ce matin l'est de la France pour la Nouvelle-Aquitaine.
Oui, le premier train part de Mulhouse, direction Poitiers, avec 12 malades à son bord. Ils sont attendus au CHU de Poitiers et dans les centres hospitaliers de la région. Le deuxième TGV, avec 24 patients, rejoint lui Bordeaux, puis Bayonne, depuis Nancy. Au total, ces 36 malades, tous dans un état grave, vont être allongés dans des civières, placés comme on a pu le voir la semaine dernière, au-dessus des sièges passagers, les respirateurs posés sur les porte-bagages. Le professeur Carly est le chef du SAMU de Paris. Il a conçu ce train sanitaire avec la SNCF.
Voitures du TGV, ces voitures que vous connaissez, dans la partie basse, ce sont les salles de réanimation. Il y a 4 patients qui sont installés, et pour prendre en charge ces 4 patients, il y a 8 personnes, et cette petite réanimation, qui est comme une unité hospitalière, elle va prendre soin du patient tout au long du trajet, comme on le ferait dans un service, sauf que cette unité se dépasse parfois à plus de 300 km/h sur les voies TGV.
Et au chevet de ces malades, des équipes du SAMU, du personnel médical, paramédical, en tout une centaine de personnes mobilisées pour permettre au service de réanimation du Grand Est de souffler. Les patients sont attendus dans leur établissement provisoire d'ici la fin de journée. Ils devraient y rester entre 15 jours et 3 semaines.
Et concernant la mobilisation des services de santé, la France passe en ce moment même à 14 000 lits de réanimation sur tout le territoire, contre 5 000 en temps normal.
Il y a donc la bataille pour la vie, on l'a entendu. Et puis, lorsque la maladie a gagné, il y a cette autre bataille pour la mort et pour la dignité. Depuis ce week-end, changement dans les règles de confinement, les proches, finalement, peuvent assister aux obsèques.
Les cérémonies sont toujours très réduites, hein, moins de 20 personnes qui doivent respecter les mesures barrières, mais les proches peuvent effectivement se rassembler désormais pour un dernier adieu. Le Haut Conseil de la Santé publique a en effet assoupli les règles de la mise en bière, même si cela demande aussi une adaptation aux professionnels du milieu. Les explications de Marion Gauthier.
Un corps mort récemment est une probabilité de contamination, notamment par les sécrétions, alors tout ce qui est autour de la sphère buccale, ORL.
Le principe de précaution prévaut, ajoute Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Ainsi, dès le début de l'épidémie, les mises en bière sont immédiates pour les défunts du Covid-19. Les familles ne voient que leur cercueil fermé. Mardi dernier, le Haut Conseil de la Santé publique revient pourtant sur son premier avis, estimant que les voies de transmission du virus sont réduites. Une évolution que comprend Gilles Pialou.
Il y a les procédures d'hygiène et puis il y a juste l'application de ces procédures dans une dimension humaine.
Une fois la mort constatée, le corps est donc placé dans une housse, désinfectée, puis rouverte sur 5 à 10 cm en chambre mortuaire devant les proches. La toilette funéraire doit à nouveau être effectuée. Des prises de risque incompréhensibles pour la Fédération française des pompes funèbres.
Et ce qu'on nous demande, en fait, si vous voulez, c'est de déplacer le défunt malade d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire qu'on va déplacer la contamination.
Il faut évidemment équiper ces familles en masques, lunettes, blouses et gants. Florence Presse, la déléguée générale de la Fédération, craint encore le manque de protection. Et ce, même si les opérateurs funéraires sont passés prioritaires pour l'obtention de matériel.
Et à l'étranger, le bilan du coronavirus continue de grimper. En Italie, on a franchi la barre des 10 000 morts. À New York, on a dépassé la barre des 2 000 morts. Et aux États-Unis, plus globalement, après avoir évoqué le placement en quarantaine des États de New York et du New Jersey, le président américain Donald Trump a finalement annoncé y avoir renoncé.
De l'autre côté du monde, à des milliers de kilomètres de chez nous, c'est jour de fête en Chine pour les 50 millions d'habitants de la province du Hubei avec la levée progressive du confinement.
Alors il faudra attendre toutfois le 8 avril prochain pour la levée du confinement de la ville de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de Covid-19. Mais dans la ville, certaines usines ont tout de même déjà pu rouvrir, une reprise progressive mais porteuse d'espoir, notamment pour les entreprises françaises qui sont présentes sur place au moment où elles voient les autres usines fermer les unes après les autres dans le monde entier. Aurélien Fleureau.
La reprise la plus spectaculaire est celle de l'équipementier automobile Faurecia. Leurs 58 sites industriels ont redémarré et ceux situés dans la province du Hubei sont désormais à 70% de leur capacité de production. Une performance après avoir été confronté à plusieurs difficultés comme l'organisation du retour des employés malgré les mesures de quarantaine ou encore la mise en place de solutions alternatives lorsque leur fournisseur traditionnel était toujours bloqué. Nette progression également ces derniers jours pour le groupe plastique Omnium dont les usines de Wuhan tournent désormais à 50%. Et pour rester chez les équipementiers français, Valeo a pu redémarrer ses deux dernières usines situées dans l'épicentre de l'épidémie avec pour les salariés un contrôle systématique de la température avant d'entrer et toujours le respect des mesures de distanciation. Tous ces industriels le disent, la Chine va nous fournir un retour d'expérience crucial pour redémarrer en temps voulu nos activités en Europe dans des conditions de sécurité maximale.
Et en France, la situation toujours très compliquée pour de nombreuses entreprises. Pour certaines, c'est encore plus délicat, notamment pour les parcs zoologiques qui, avec des animaux, doivent évidemment assurer un fonctionnement non-stop, même sans visiteurs. Charles Guyard.
Nous sommes surfermés jusqu'au 15 avril. Notre priorité étant de nous occuper au mieux de nos animaux.
Des animaux qu'il faut nourrir et soigner tous les jours. Et c'est bien là le problème des quelques 300 zoos français. Car cette année, avec la saison haute déjà fortement contrariée, on sera loin des 20 à 21 millions de visiteurs qui permettent en principe d'assurer la trésorerie pour garantir un fonctionnement en continu. Rodolphe Delors, président de l'Association des parcs zoologiques, en appelle au gouvernement.
Perdre à la fin du mois de mars, au mois d'avril, ça peut représenter 15 à 20% du chiffre d'affaires de l'année. Nous demandons au gouvernement un peu en relance économique touristique, juste après en sortie de cette crise.
En attendant, certains parcs ont pris les devants et même lancé des cagnottes en ligne. C'est le cas du zoo de la Boissière du Doré au sud de Nantes qui a déjà reçu plus de 12 500 euros de promesses de dons. Cela reste minime comparé aux besoins du parc, mais son directeur Sébastien Laurent se félicite de la générosité du public.
Aujourd'hui, il nous faut 217 000 euros par mois pour vivre. On reçoit des dizaines et des centaines de messages par jour de soutien et ça fait vraiment plaisir.
Et en France, les parcs zoologiques représentent 15 000 emplois directs. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et on termine ce journal avec du sport. On a voulu prendre des nouvelles de tous ces sportifs de haut niveau qui ont appris le report des Jeux Olympiques, Simon.
Et oui, que font-ils désormais de ces vacances forcées? Corinne Boulou a joint quelques-uns de nos sportifs les plus emblématiques.
Ils ont de l'imagination, nos champions olympiques, pour s'entretenir physiquement. À l'image du perchiste Renaud Lavillenie, qui profite de la présence de sa petite fille pour corser un exercice. Iris, 2 ans et demi, grimpe sur le dos de son papa pendant qu'il fait des pompes. À Marseille, le nageur Florent Manaudou expérimente, lui, de nouveaux exercices.
J'ai fait du yoga hier. J'avais jamais essayé de faire du yoga avant. C'est quelque chose qui est positif aussi. Je peux peut-être découvrir de nouvelles choses sur moi-même. Et il y a beaucoup de choses qui seront positives, je pense, après ce confinement.
Quant au double champion olympique de judo, Teddy Riner, il s'astreint à 2 séances par jour avec du matériel réceptionné à domicile.
Je vois mon corps changer, je vous le dis. Je le vois changer parce que je fais que pousser toutes sortes d'haltères, toutes sortes de circuit training. Donc du coup, moi, j'ai la chance de pouvoir m'entraîner. La seule chose qui va me manquer, c'est un partenaire. Là, je commence à être à court avec mon gros nounours, là.
Moins diététique, mais plus distrayant, l'apéro en direct sur les réseaux sociaux auxquels se sont livrés il y a quelques jours les joueurs de tennis Stan Wawrinka et Benoît Paire, avec une bonne dose d'humour.
Bonne dose d'humour, et pour avoir vu la vidéo, il n'y avait pas qu'une bonne dose d'humour, si vous voyez ce que je veux dire.
Je n'ai pas regardé, mais je vais aller voir tout à l'heure, sans faute. Merci beaucoup, Simon Rubin. C'était le premier journal de cette matinale du dimanche. On se retrouve dans 50 minutes avec vous, Simon, pour le 8h. À tout à l'heure.